Laudetur Jesus Christus.
Dieu récompense ses serviteurs par sa grâce, c'est le cœur de la courte catéchèse délivrée par le pape hier, juste avant la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre, compte rendu, dans quelques secondes. Les États-Unis annoncent le retour des sanctions onusiennes contre l'Iran. Après plusieurs échecs cet été devant les Nations Unies, Washington fait donc cavalier seul. Pour la Chine, la Russie et l'Union Européenne, cette initiative est sans droit. Nous reviendrons aussi sur la contestation biélorusse qui ne faiblit pas. Des dizaines de milliers d'opposants au président Loukachenko ont investi les rues de la capitale hier malgré la répression des autorités. Nous parlerons aussi de ces deux jours de scrutin en Italie, élections régionales et référendum constitutionnel. Les Italiens ont jusqu'à ce lundi 15h pour déposer leur bulletin. Et puis enfin, gros plan sur la Syrie, mis sous le boisseau ces dernières semaines en raison de la crise libanaise, alors que la situation y est tout aussi dramatique. Le pays est en ruine après 9 ans de guerre. La pauvreté s'étend et voilà que le Covid se superpose à tout cela. Nous entendrons le témoignage du frère Al-Saba, le curé de la paroisse d'Alep.
Radio Vatican, le journal, Manuela Affigi.
Bonjour à tous et donc nous revenons sans plus tarder sur l'Angélus dominical place Saint-Pierre devant plusieurs centaines de fidèles. Le pape François a commenté l'évangile du jour en Saint Matthieu où Jésus raconte la parabole des travailleurs appelés par le maître de la vigne, une parabole qui montre que Dieu est toujours en sortie à notre recherche. Cyprien Viette.
À travers ce racconto, Jésus ci mostra il sorprendente modo di agire di Dio.
À travers ce récit, Jésus nous montre la surprenante façon d'agir de Dieu, représentée par les deux attitudes du maître, l'appel et la récompense, a expliqué François. Le maître appelle ses ouvriers à 5 reprises. Ainsi, il représente Dieu qui appelle tous et appelle toujours. Dieu est toujours en sortie, à notre recherche, a insisté François. Nos communautés doivent donc elles aussi se situer dans une dynamique de sortie pour aller à la rencontre de ceux qui vivent dans les périphéries existentielles et ont besoin de rencontrer Jésus ou de le retrouver après s'en être éloigné.
Et quand la Chiesa non è in uscita, si ammala.
Quand l'Église n'est pas en sortie, elle devient malade, a répété le pape. La deuxième attitude du maître est sa façon de récompenser les travailleurs. Dans cette parabole de l'Évangile, il attribue à tous le même salaire, ce qui suscite l'indignation et la jalousie de ceux qui avaient commencé leur travail plus tôt dans la journée. On comprend donc ici que Jésus n'est pas en train de parler du travail et du juste salaire, mais du royaume de Dieu et de la bonté du Père Céleste, qui ne regarde pas le temps et les résultats, mais la disponibilité et la générosité avec laquelle nous nous mettons à son service.
Tutto è grazia.
Tout est grâce, a insisté François, en invitant à se confier avec humilité à la miséricorde du Père.
Cyprien Viette, après la prière de l'Angélus, le Saint-Père a rappelé le congrès eucharistique international qui devait se tenir à Budapest en Hongrie ces jours-ci et qui a été reporté à l'année prochaine. Continuons, unis spirituellement, le chemin de préparation en trouvant dans l'Eucharistie la source de la vie et de la mission de l'Église, a déclaré le Saint-Père, qui a salué tout particulièrement le clergé et les fidèles hongrois. À la une de l'actualité internationale, le retour des sanctions de l'ONU contre l'Iran, un retour proclamé unilatéralement par Washington. Ces mesures de restriction avaient été levées au nom de l'accord historique conclu en 2015 sur le nucléaire iranien et désavoué par l'administration Trump en 2018. Mais les États-Unis annoncent donc les rétablir à 6 semaines de la présidentielle et cela en invoquant une pirouette juridique dénoncée par la majeure partie de la communauté internationale. Téhéran s'est moqué de l'isolement maximal des États-Unis. À New York, Loïc Loury.
Il y a environ un mois, l'administration Trump recevait une gifle au Conseil de sécurité, incapable de forcer ses partenaires à prolonger un embargo sur les armes contre Téhéran. À ce moment-là, Mike Pompeo, le secrétaire d'État, s'en était pris violemment à Paris, à Londres et à Berlin, les accusant d'avoir choisi de s'aligner avec les ayatollahs. La proclamation unilatérale de Washington aujourd'hui semble donc faire figure de représailles. Les États-Unis, qui s'étaient pourtant retirés de l'accord sur le nucléaire, en invoquant en effet l'un des mécanismes, le snapback, pour rétablir les sanctions de l'ONU contre l'Iran, mais sans l'appui des Russes, des Chinois ou des Européens. D'après ces derniers, toute action prise sur le fondement d'une telle procédure sont sans effet en droit, sauf que les États-Unis, certes totalement isolés, ont les moyens de faire plier la communauté internationale. L'administration menace de mettre en place des sanctions secondaires pour punir tout pays ou toute entité qui violerait les restrictions contre Téhéran. Autant dire que l'Assemblée l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvre, même virtuelle, s'annonce tendue. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Vous venez de l'entendre, coup d'envoi ce lundi de la 75e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Chaque année, New York est le théâtre d'un grand ballet diplomatique. À cette occasion, de nombreux chefs d'État font toujours le déplacement. Leurs rencontres et entretiens dans les couloirs du Palais de Verre sont scrutés à la loupe. Eh bien, rien de tel cette année. La pandémie oblige à tout repenser en mode virtuel. Les traditionnels discours à la tribune ont été préenregistrés. Plusieurs mini-sommets auront lieu en vidéoconférence. Rappelons que le pape François adressera lui aussi un message aux participants. Nouveau dimanche de mobilisation au Bélarus où plusieurs dizaines de milliers de manifestants étaient dans la rue pour protester contre la réélection du président Alexandre Loukachenko. Plus d'un mois après cette élection, la mobilisation ne faiblit pas, le pouvoir non plus. Il a opéré plus d'une centaine d'arrestations. La correspondance depuis Moscou de Jean Cassé.
6 semaines de mobilisation, de manifestations massives tous les week-ends, des défilés rassemblant en moyenne plus de 100 000 personnes dans la capitale et les grandes villes du Bélarus. 6 semaines, mais presque aucune concession de la part d'Alexandre Loukachenko. Au contraire même, après avoir chancelé vers la mi-août et semblé renoncer à réprimer par la force les manifestations, après avoir promis une réforme constitutionnelle et des élections anticipées, Loukachenko, revigoré par le soutien financier, diplomatique et sécuritaire de la Russie, revient peu à peu vers la manière forte. Les chefs de l'opposition sont emprisonnés ou poussés à l'exil et la police arrête les manifestants au hasard dans les cortèges. Plus de 500 au total ce week-end. De leur côté, malgré la répression grandissante, les manifestants ne se découragent pas. Leur nombre reste sensiblement le même d'une semaine sur l'autre, sans réel reflux. Mais du côté des autorités, on a l'impression que le pire de la crise est déjà passé. Les grèves dans les usines ont été rapidement brisées, les défections de hauts fonctionnaires ou dans les rangs de la police se comptent sur les doigts d'une seule main. Et l'engagement sans équivoque de Vladimir Poutine à soutenir Alexandre Loukachenko lui donne de réelles chances de se maintenir, au moins à moyen terme, de jouer le pourrissement et d'attendre, en espérant que la lassitude et l'arrivée des grands froids forceront les Bélarusses à rentrer chez eux. Jean Casset, Moscou. Pour Radio Vatican.
Lors d'une session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU la semaine dernière, l'observateur permanent du Saint-Siège à Genève a plaidé pour une solution pacifique et juste au Bélarus, appelant à un dialogue sincère, au rejet de la violence et au respect de la justice et des droits. Rappelons que le pays a reçu ces derniers jours la visite du secrétaire pour les relations avec les États, Mgr Paul-Richard Gallagher. Un point sur la pandémie de Covid. En Espagne, les habitants de Madrid, la capitale, sont priés de rester chez eux en raison de l'augmentation du nombre de cas. 850 000 personnes sont concernées. Elles ne pourront sortir de leur quartier que pour aller travailler, faire leurs courses ou emmener leurs enfants à l'école. Mais le Premier ministre assure ne pas envisager un reconfinement du pays. Assouplissement en revanche en Nouvelle-Zélande et en Inde, où l'iconique Taj Mahal rouvre ses portes aux visiteurs aujourd'hui. En Italie, un double scrutin se poursuit ce lundi, des élections régionales et un référendum constitutionnel qui ont commencé hier. Ce sont les premiers tests électoraux depuis la crise sanitaire, des tests à la fois pour le gouvernement et l'opposition, mais qui se déroulent dans des conditions bien particulières à cause, bien sûr, de la Covid. Blandine Hugonnet.
Gel hydroalcoolique et masque obligatoire pour ces 2 jours de scrutin. En période de pandémie, les bureaux de vote ont pris leur disposition. Dans toute l'Italie, pour le référendum, 51 millions d'Italiens sont appelés à se déplacer pour voter pour ou contre la réduction d'un tiers du nombre des parlementaires. Une réforme soutenue par tous les grands partis et qui devrait donc être approuvée par les électeurs. Entre le gouvernement et l'opposition, la partie se joue alors plutôt aux élections régionales. Ce lundi après-midi, les Italiens auront notamment les yeux rivés sur les résultats en Toscane, dans le bastion de la gauche depuis 50 ans. La jeune candidate soutenue par la Ligue de Matteo Salvini est au coude à coude avec le candidat du Parti démocrate au pouvoir. Au total, sur les 7 régions en jeu, l'extrême droite pourrait en rafler au moins 4. De quoi ébranler la coalition gouvernementale entre centre-gauche et mouvement 5 étoiles. Encore faut-il que les électeurs se mobilisent pour que les résultats aient du poids. À cause du Covid, des milliers de scrutateurs ont fait défection pour le dépouillement. Seulement 1800 citoyens en quarantaine ont sollicité l'organisation d'un vote à domicile. Et hier soir, après une première journée de vote, l'abstention, elle, s'élevait à 70% pour les 2 scrutins. À Rome, Blandine Gonnet pour Radio Vatican.
Week-end de manifestation en Thaïlande. Entre 50 000 et 80 000 personnes, dont beaucoup d'étudiants, ont défilé dans les rues de Bangkok pour demander la démission du Premier ministre, la tenue d'élections et des réformes institutionnelles. Près du Palais Royal, des manifestants ont cimenté une plaque affirmant que la Thaïlande appartient au peuple et non au roi. Un acte de défi inédit dans le royaume où la monarchie est intouchable. Cette plaque a été enlevée ce matin. D'autres manifestations hier dimanche à Jérusalem. Cette fois, malgré le reconfinement total du pays, des milliers de personnes se sont rassemblées devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem, aussi nombreuses que les dernières semaines. Pas de répit donc pour Benjamin Netanyahou, aux prises avec des affaires de corruption et vitupéré par les manifestants pour une gestion erratique de l'épidémie. Éclipsée par l'actualité libanaise, la Syrie se débat avec une crise économique aiguë, un chômage massif et une reconstruction qui se fait attendre. Les sanctions internationales imposées contre le régime de Bachar el-Assad touchent de plein fouet la population, causant des pénuries de carburant, privant les structures sanitaires d'équipements adéquats pour soigner les malades et entraînant une augmentation des prix des denrées de base et des médicaments. À cette situation angoissante s'ajoute désormais la pandémie de coronavirus qui exacerbe le marasme économique et sociale et plonge un pays déchiré par 9 ans de guerre dans une profonde misère morale et matérielle. Nous avons joint le frère Ibrahim Al-Saba, le curé de la paroisse latine d'Alep. Il témoigne d'un quotidien éprouvant.
Nous avons été très touchés de la crise de virus. La majorité des frères ont été affectés. Nous avons eu 2 morts des frères et les autres ont été très malades. J'ai été l'unique qui a resté pour servir les autres. Au même temps, les structures sanitaires sont très endommagées à cause de la guerre, avec aussi les prix très élevés des médicaments. Ce n'est pas seulement le virus, mais beaucoup de crises qui sont été maintenant mises ensemble après 9 ans de la guerre et qui font vraiment de la situation, des conditions de vie inhumaines pour les personnes et pour les familles.
Comment les gens réussissent à se soigner? Comment font-ils pour aller à l'hôpital, acheter des médicaments?
Et c'est notre défi comme Église. Nous essayons de faire tout ce que nous pouvons. Nous avons commencé à envoyer les personnes, forcer les personnes pour aller chez les docteurs, pour faire les analyses, pour entrer dans les hôpitaux. Et nous avons essayé de prendre la charge de toutes les personnes, même avec les médicaments très chers, d'acheter pour des vitamines, des antibiotiques, de couvrir toutes les choses dont les personnes ont besoin. Ce n'est pas facile pour nous. C'est vraiment un grand défi aujourd'hui. Je n'ai pas imaginé de voir ou de vivre cette situation des personnes qui souffrent avec cette crise qui n'est pas fini encore, de virus.
Mon père, est-ce que vous ressentez en ce moment de crise les sanctions internationales qui pèsent sur la Syrie?
C'est sûr, les sanctions vont contre les personnes, le peuple, les familles. Les résultats des sanctions, c'est d'empêcher même les hôpitaux, même les cliniques privées, d'avoir l'équipement desquels ont besoin pour soigner les malades. La première cause de notre souffrance aujourd'hui, je peux dire, ce sont les sanctions.
On a un peu l'impression, en vous écoutant, que ce que vous vivez actuellement est presque pire que la guerre.
Oui, vraiment, c'est plus grand. Parce que vous pouvez entendre les missiles qui tombent. Vous pouvez imaginer quand vous êtes préparé à une chose comme ça. Et nous avons passé beaucoup de difficultés, de défis. Mais avoir une crise de plus, comme la crise de virus, dans un pays déchiré et très pauvre, avec les personnes sans travail, et j'ai écouté beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui ont dit que la souffrance aujourd'hui est plus grave de ce que nous avons passé en 9 ans de souffrance.
Est-ce que vous réussissez à voir une dimension spirituelle dans les souffrances, dans les épreuves que vous traversez?
Avec la grâce du Seigneur, nous offrons nos souffrances, pas seulement pour nous, mais aussi pour l'Italie, aussi pour la France, pour l'Europe, pour tout le monde. Et nous essayons de porter ensemble la croix.
Pour finir, mon père, quel est l'appel que vous souhaiteriez lancer à tous ceux qui vous écoutent?
Je demande la prière et je demande l'aide pour continuer à survivre. Nous, aujourd'hui, une famille ne pense pas de améliorer la situation sociale, mais de penser seulement de trouver le pain, de trouver l'eau, de trouver les médicaments.
Voilà, c'était le frère Ibrahim El-Sabah, le curé de la paroisse latine d'Alep en Syrie. Il était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve à 13h pour une nouvelle édition. D'ici là, très belle journée à toutes et à tous.